Donc bienvenue ce soir pour ce thème qui a été choisi, qui est l'adoration dans la Bible. Alors c'est un sujet immense, intraitable. Vous m'avez demandé quelque chose, vous m'avez demandé là un saut périlleux. En tout cas, on va commencer par quelque chose de négatif, parce que finalement l'adoration ça n'existe pas dans la Bible. Voilà. Voilà, parce que dans le monde biblique, on n'adore pas. Pas au sens où nous nous adorons, du moins notre manière d'adorer le Saint-Sacrement n'est pas du tout du même ordre, surtout dans l'Ancien Testament. Alors, déjà le mot adoration, le mot adorer, ça vient d'un mot latin qui veut dire orare, donc parler, et ensuite prier, ad, vers, adorer, c'est prier, vers, adresser une prière à quelqu'un. Dans le mot orare, vous avez le mot bouche. Os en latin, la bouche. Donc ça veut dire que quand on parle, on utilise évidemment les organes buccaux. Quand on parle, quand on s'adresse à Dieu, eh bien on lui adresse une prière vocale. Mais ça n'est qu'un aspect de la prière. Il y a un mot équivalent en grec, pros eukomai, qui signifie aussi donc adresser un vœu à quelqu'un. Mais quand on cherche d'une façon plus lointaine, le mot adoration, eh bien, on tombe plutôt sur un verbe qui est un geste. C'est le verbe se prosterner que l'on trouve. Et on le trouve notamment dans le Décalogue. Quand vous ouvrez le chapitre 20 du livre de l'Exode, il est bien sûr dit « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, sous-entendu ces dieux païens ». Donc c'est le geste de du prosternement qui est indiqué. Et on trouve dans le Nouveau Testament l'équivalent. Il n'y a pas donc de verbe adorer, mais un verbe grec qui est le verbe proskuneo. Quand Jésus rencontre la Samaritaine au puits de Jacob à Sichem, eh bien ils vont parler ensemble de l'adoration en esprit et en vérité. C'est-à-dire on ne va plus adorer Dieu seulement au temple de Jérusalem ou sur le mont Garizim comme le faisait la Samaritaine, mais il s'agit désormais d'adorer d'une façon beaucoup plus intérieure. Et donc c'est ce verbe proskuneo en grec qui est utilisé et qui est donc une transcription de l'hébreu. Cela signifie donc se prosterner ou dans un sens très étymologique, baiser la main de quelqu'un ou bien baiser les pieds de quelqu'un. Donc vous voyez qu'il y a un geste quand même d'abaissement vers la personne vers laquelle on se tourne. Donc voilà, adorer n'a pas d'équivalent dans le contexte biblique. Alors en tout cas, le sens même de l'adoration nous situe devant ce qui nous dépasse, devant une dimension surnaturelle. On ne peut pas adorer un être humain, et c'est même interdit. Alors, devant le surnaturel, devant des forces qui, dans un esprit primitif, pourraient même être des forces occultes, eh bien, il y a un sentiment de crainte, il y a un sentiment de terreur. Et donc, c'est une première réaction que l'on peut avoir, ce que l'on va appeler ensuite la crainte de Dieu. On va se prostrer de tout son corps, se prostrer. Mais il y a là comme une attitude d'abattement, une attitude d'écrasement sous la force, sous une force supérieure à soi. Et donc, cela suscite une certaine peur devant un phénomène redoutable. Et c'est cette expression de crainte de Dieu qui a ensuite glissé dans le sens de, beaucoup plus noble, de la crainte de Dieu qui signifie la confiance en Dieu. C'est donc un retournement qui nous fait quitter la crainte pour aller dans une relation aimante et donc confiante envers ce Dieu dont on n'a pas peur. Ou du moins, on pourrait transcrire ainsi la crainte de Dieu, c'est avoir peur de mal faire, avoir peur de faire du mal à Dieu. Alors dans ce sens-là, oui, il y a de la crainte, c'est-à-dire que je ne veux pas du tout ternir ma relation avec Dieu. Donc le premier aspect devant le surnaturel, c'est d'abord ce sentiment de crainte. qui entraîne la prostration de tout le corps, mais c'est comme si on était allongé par terre. D'ailleurs, le Vendredi Saint, au moment où nous entrons dans l'office de la Passion, le soir, les prêtres font cette prostration de tout leur corps, allongé sur le sol, devant l'autel, sous-entendu devant le sacrifice du Christ. Alors l'autre attitude, qui est moins allongée, c'est l'attitude du prosternement, donc il faut distinguer l'un et l'autre. Et là, on n'est plus du tout dans la crainte, ou dans la terreur même. Le prosternement, c'est la courbure du corps. C'est la courbure de celui qui s'humilie devant la grandeur de Dieu. Et donc, il y a un sentiment de sainteté de Dieu, la présence de Dieu qui est là. On est saisi par lui parce que on sent qu'il y a une proximité du Seigneur et donc on respecte sa présence. Alors, très évidemment, on n'adore que Dieu seul. Peut-être vos parents vous ont-ils dit ça quand vous disiez « j'adore le chocolat ». Ils vous reprenaient en vous disant « attention, on n'adore pas le chocolat, on n'adore que Dieu ». Donc Dieu seul est adoré. C'est devant Dieu seul que l'on se prosterne et non pas devant des idoles. Et combien de fois le peuple d'Israël est repris dans l'Ancien Testament parce que justement il se vautre dans des sanctuaires syncrétistes où il y a un mélange de religion israélite et de religion païenne. On ne se prosterne pas devant les hommes. Et dans le livre d'Esther, je ne sais pas si vous connaissez ce très beau livre qui se lit comme un roman, eh bien, le tuteur d'Esther, Esther est devenue reine à Suse, en Perse, et voilà que celui qui fut son tuteur, parce qu'il est juif, refuse de se prosterner devant Aman, le premier ministre du roi. Et c'est ce qui va susciter la fureur d'Aman, qui va vouloir exterminer le peuple d'Israël. Donc on ne se prosterne pas devant même le premier ministre, même devant Monsieur Édouard Philippe, on ne se prosterne pas. Et puis la même chose dans le livre de Daniel, eh bien on voit trois enfants qui ont refusé de se prosterner devant Nabucodonosor et ils sont condamnés à la fournaise. Et évidemment quand Nabucodonosor va voir que au milieu de cette fournaise il y a comme un ange qui surgit, il va comprendre que eh bien les enfants sont sauvés et que c'est le Dieu d'Israël qui est vainqueur. Alors, quand on ouvre l'Ancien Testament, on découvre des gestes de prosternement de la part d'Abraham, par exemple, dès le livre de la Genèse. Alors, on voit comment Abraham sort de sa Mésopotamie natale et qu'il va traverser la terre que Dieu lui montre, qui est la terre de Canaan, qui deviendra la terre promise. Et là, Dieu lui apparaît. Dieu est vu, c'est l'expression hébraïque. On n'a pas ce verbe « apparaître » en hébreu, donc c'est le verbe « voir » au passif. Dieu est vu par Abraham, quelque chose d'extraordinaire. Nul ne peut voir Dieu, et pourtant, là, on nous dit que Dieu est vu par Abraham. Et donc, que fait Abraham à ce moment-là? Il construit un autel. On est à Sichem, dans la région de Samarie, où justement Jésus va rencontrer la Samaritaine. C'est en Genèse, chapitre 12, verset 7, qu'il y a la fabrication de cet autel. Et donc Abraham va construire tout au long de ce chemin à travers la Terre Sainte une série d'autels dans les lieux qu'il va fréquenter, voulant ainsi marquer la présence où Dieu s'est rendu, où Dieu est venu le visiter. Et le véritable prosternement apparaît au chapitre 18 de la Genèse. C'est un chapitre que vous devez connaître. On est aux chênes de Mambré. Et voilà que trois visiteurs rendent visite à Abraham. Le Seigneur apparut aux chênes de Mambré. Donc le Seigneur fut vu par Abraham aux chênes de Mambré. Mambré, c'est à Hébron aujourd'hui. Tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. S'il s'agissait vraiment de trois hommes, Abraham ne se serait pas prosterné. Il y a donc bien ici une évidence que ces trois personnages qui viennent sont des personnages divins et que quand on disait au début que Dieu apparaissait à Abraham, eh bien, cette apparition de Dieu, elle se traduit ensuite sous la forme de ces trois personnages. Et les pères de l'Église, évidemment, vont broder là-dessus pour expliquer que ces trois personnages, c'est en fait la Sainte Trinité qui, déjà, s'est manifestée à Abraham. Dans le Nouveau Testament, je ne l'aborderai quasiment pas, je dis quelques mots seulement. Dans le Nouveau Testament, alors, on voit Jésus en prière. Oui, Jésus, si vous voulez, est en adoration. Il est en adoration et souvent, il monte sur la montagne. Donc, ce déplacement physique et en plus ascensionnel prouve qu'il veut s'approcher du Père. Donc, il monte sur la montagne et il se met à l'écart des siens. On voit ça, par exemple, quand il est à Capharnaüm, il a besoin le soir de se retirer et les disciples sont perdus. Et le petit matin, ils viennent le chercher en lui disant « Mais tout le monde a besoin de toi ». Donc, Jésus a besoin de silence, de solitude, d'être à l'écart pour être vraiment en son Père. Et puis, il y a un autre moment de la prière de Jésus qu'on a entendu récemment dans l'Évangile, c'est quand Jésus exulte sous l'action de l'Esprit-Saint et qu'il se met à déclamer « Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux tout-petits. » Et donc Jésus va parler en fait de sa prière, cette connaissance mutuelle du Père et du Fils, et que connaissance à laquelle nous pouvons accéder uniquement si le Fils nous en donne accès. Donc le Fils est bien la clé d'ouverture de cette porte de la prière, il est bien la clé qui nous conduit au Père. Donc, pour nous chrétiens qui avons connaissance que Dieu est Trinité, nous ne pouvons pénétrer dans les profondeurs de la prière que si nous passons par le Christ, dont la lettre aux Hébreux dira qu'il est le médiateur entre le ciel et la terre, médiateur entre nous, les hommes, et son Père. Donc, voilà, on voit dans cette prière de Jésus quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il exulte, donc la prière doit être joyeuse, et que cette exultation est faite dans l'Esprit-Saint, donc la prière, elle doit être aussi exercée, vécue dans cette puissance, cette force de l'Esprit en nous. Il ne faut jamais mettre l'Esprit de côté, même quand on est en adoration dans l'oratoire Jean-Paul II, face à Jésus hostie, il n'empêche que c'est dans l'Esprit qu'on peut le rencontrer. Et que le Christ nous mène au Père. Donc, voilà, soit c'est inconscient, soit on en a pleinement conscience, et donc on inclut pleinement dans la prière l'Esprit-Saint. Et puis, ce prosternement, on le voit de la part des disciples, notamment après la résurrection. C'est à la fin de l'évangile de saint Matthieu, quand Jésus retrouve ses disciples. C'est même d'abord avec les saintes femmes. Alors, on est au chapitre 28 de Matthieu. Donc, le dernier chapitre, chapitre 28, verset 9. Et là, on nous dit « Voici que Jésus vint à la rencontre des femmes. Je vous salue, dit-il. Et elles s'approchèrent et étreignirent ses pieds en se prosternant devant lui. » Donc, voilà, elles reconnaissent cette divinité qu'il y a en Jésus et qui doit éclater au matin de sa résurrection. Et donc Jésus leur donne la mission d'aller retrouver ses frères en Galilée. Et quand il les retrouve, quelques versets plus loin, versets 16-17, les 11 disciples se rendirent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Alors nous retrouvons ce même geste chez saint Paul dans cette belle hymne aux Philippiens, au chapitre 2. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté ou l'a élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse au ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc celui qui s'est abaissé et qui est élevé, exalté dans la gloire du Père au jour de son ascension, eh bien c'est celui qui nous fait faire le même mouvement d'abaissement pour qu'il nous élève en lui. Et puis enfin, on retrouve ce geste dans l'Apocalypse. Alors on a des... faudrait prendre l'Apocalypse, il faudrait une soirée entière pour parler du livre de l'Apocalypse, mais on a cet hymne « Grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout ». C'est au chapitre 15, verset 4. « Seigneur Dieu, maître de tout, juste et droite sont tes voies, ô roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom, car tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi. » Tous les païens viendront se prosterner devant toi parce que tu as fait éclater tes vengeances. Alors il y a toujours des termes qui nous sont difficiles à avaler, et si on les prend au premier degré, or il faut les prendre dans leur contexte biblique. Donc ici, l'assemblée des saints célèbre l'agneau et donc reprend un psaume, le psaume 86. Pour dire que tous les païens viendront se prosterner finalement, dans le Christ, ce qui n'était qu'une promesse de l'Ancien Testament, une promesse des psaumes, se réalise puisque grâce à lui, les païens, et nous en faisons partie, peuvent enfin se prosterner devant la gloire de Dieu. Alors, maintenant nous allons travailler un ou deux textes importants. Je vous propose d'ouvrir l'Exode au chapitre 3. C'est à la page 107, normalement, c'est bien ça ?
Oui.
Page 107 dans votre Bible. Donc c'est le deuxième livre biblique. Nous sommes au début de l'histoire de Moïse. Moïse est présenté tout d'abord au milieu d'un peuple des Hébreux persécuté par Pharaon, un nouveau Pharaon qui surgit, qui n'est plus celui de l'époque de Joseph. Et ce Pharaon, persécutant le peuple des Hébreux, Dieu va devoir intervenir. Dieu n'a pas oublié son peuple, et c'est là qu'il relance la relation avec les siens. Et voilà que Moïse, qui a fui l'Égypte, Moïse qui a mis à mort un contremaître égyptien qui faisait du mal aux Hébreux, fuit donc et se retrouve dans le désert de Madian, où il va rencontrer Tsipora, celle qui sera son épouse. Il va avoir deux enfants, et un jour, alors qu'il garde son troupeau, il va se trouver devant ce phénomène surnaturel qui est le buisson ardent. Alors lisons ces versets 1 à 6. Chapitre 3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu dans l'Horeb, l'Horeb, c'est-à-dire le Sinaï, si vous préférez. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, » dit-il, et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Alors nous sommes dans une scène très connue, extraordinaire. Il s'agit de, à travers cette scène, de mettre tout d'abord une opposition entre ce qui est de l'ordre du profane et ce qui est de l'ordre du sacré. Alors tout d'abord, dans l'espace, on voit bien que ce qui est de l'ordre du sacré, donc qui touche la présence divine. C'est cette fameuse montagne appelée montagne de Dieu. Et un jour, Jérusalem sera appelée aussi le mont Sion ou la montagne de Dieu. Il y aura une transposition. Donc c'est le lieu où Dieu veut être présent. Et on est par-delà le désert, on est même au-delà du désert. Et puis on dira que tout cela se passe du milieu du buisson. Donc on voit comment d'un espace extérieur, on va de plus en plus vers un espace intérieur. Et finalement, ce monde tout autre, ce monde surnaturel, n'est pas tant un monde qui est au-dessus de nous qu'un monde qui est plus en profondeur. Alors, il y a un buisson. Le mot buisson en hébreu, c'est presque la même racine, ou c'est même peut-être la même racine que le mot Sinaï. Donc vous voyez, quand vous dites le Sinaï, finalement vous parlez du buisson. Alors qu'est-ce que c'est que ce buisson ? Bah, c'est un épineux, c'est pas un arbre quand même très très élégant. Et donc, il y a un rabbi du XIIe siècle qui s'appelle Rashi, et qui a dit « Dieu a choisi le buisson, le moins élevé de tous les arbres, comme lieu de sa révélation, pour montrer par là qu'il était avec les Hébreux dans leur état d'humiliation. » Donc c'est très intéressant parce que ça nous montre que cet arbre dans lequel Dieu a choisi de manifester sa présence, c'est le plus ignoble de tous les arbres pour dire que Dieu veut venir dans l'état où se trouve son propre peuple. C'est-à-dire jusque dans les épines de son peuple, et quand on parle d'épines pour nous chrétiens, ça nous évoque évidemment autre chose. Et puis voilà que le phénomène qui se produit, c'est un phénomène fait d'opposition, parce que au verset 2, on nous dit que ce buisson est... Alors là, je prends les mots très exactement, je traduis mot à mot de l'hébreu. Le buisson, il est brûlé dans le feu, il est mangé. Vous voyez, c'est quand même très cru. Il est brûlé dans le feu et il est mangé. Et ensuite, au verset 3, on nous dit « il n'est pas brûlé ». Donc, il faudrait savoir, est-il brûlé ou n'est-il pas brûlé ? C'est un buisson qui brûle sans brûler. Nous avons donc des éléments antagonistes, des éléments contradictoires. Tout cela pour nous dire qu'il y a une énigme. Voilà, il y a quelque chose d'inexplicable. Et il faut donc que nous cherchions un sens à ce phénomène inexplicable. Alors, il y a bien sûr un feu, dont le livre du Deutéronome, au chapitre 4, quand il évoquera cet épisode du buisson ardent, dira que Dieu est comme un feu consumant. Dieu est comme un feu consumant à cause de sa transcendance, à cause de sa perfection, à cause de la totalité qu'il englobe. Donc le feu, la flamme, le feu consumant dans ce buisson qui est le lieu de la révélation divine. Et puis nous avons plusieurs personnages qui apparaissent. Alors il y a Moïse. Et les personnages sont reliés généralement à des êtres à leur famille. Enfin, Moïse, tout d'abord, il est relié à son beau-père, Jéthro, au verset 1. Et puis, après, on va nous parler de « Je suis le Dieu de ton père », c'est au verset 6, le Dieu de ton père, donc le père de Moïse. Voilà, son père, celui qu'il a laissé en Égypte. Et puis, celui de son père, il est lié à des ancêtres. On les appelle Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, finalement, Dieu appelle Moïse par son propre nom. Il va même répéter deux fois le nom de Moïse au verset 4, « Moïse, Moïse ». Et là, on a plein d'interprétations rabbiniques. Pourquoi est-ce que Dieu prononce deux fois le nom de Moïse ? Alors, ma première interprétation, c'est que il s'agit d'une relation d'amour que Dieu a pour Moïse. Donc, il s'agit de répéter ce nom que Dieu aime. Et puis, une autre, parmi tant d'autres interprétations, on dit il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de pause entre les deux nominations de Moïse, parce que Dieu est tellement pressé, il est empressé de parler et d'annoncer le message qu'il veut annoncer. Donc voilà, ce Dieu empressé qui répète ce nom, mais se dépêche de passer à la suite. Alors, donc il y a Moïse, il y a Dieu bien sûr, et puis il y a un ange. En fait, l'ange manifeste la présence de Dieu. On peut dire que l'ange est le reflet de Dieu, que l'ange est là pour révéler Dieu à l'homme. Donc, à travers cette présence de l'ange, on peut dire que Moïse a vu quelque chose de Dieu. Et il nous est dit, au verset 2, que l'ange du Seigneur lui a paru. Il n'est p================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Donc, à travers ce surgissement de l'ange au milieu du buisson ardent, eh bien, il y a quelque chose, je dis bien quelque chose de Dieu qui est quand même sensible. Et finalement, la suite va le dire, puisqu'au verset 4, c'est bien Dieu qui parle. Dieu voit, Dieu appelle, et il dit « Moïse, Moïse ». Donc il y a, voyez-vous, une figuration pseudo-humaine, pseudo-divine, sous la forme d'un ange, et puis ben, Dieu s'exprime, Dieu se manifeste finalement, surtout à travers sa parole. Donc on voit comment ici, Dieu et son envoyé qui est l'ange, son messager, Dieu et son envoyé ne font qu'un. Alors, le verbe « voir » est très important dans ce passage. Il apparaît 6 fois en tout dans le texte. Il y a même une 7e forme, c'est le verbe « fixer son regard ».« Fixer son regard ». Donc, on voit comment, en plus de « voir » ou de « vision » ou de « être vu », eh bien, on a la fixation du regard. Au verset 6, il est dit que... Moïse craignait de fixer son regard sur Dieu. Sinon, eh bien, c'est un jeu entre voir et ne pas voir, entre se faire voir et ne pas se faire voir. Moïse, tout d'abord, voit. Il veut voir même davantage, donc il s'approche. Il voit quelque chose d'un peu étonnant, il s'approche. Et il n'est pas plutôt devenu voyant du spectacle qu'alors il s'aveugle volontairement, il se voile. Il se cache le visage. Donc il y a quelque chose de trop éclatant dans ce phénomène. Il y a un mouvement d'avancée et un mouvement de recul. L'élan de curiosité fait place à un sentiment de peur, la peur de Dieu dont je vous parlais tout à l'heure. Et cela est exprimé au verset 6, il est dit « Il craignait de fixer son regard sur Dieu ». Il y a à la fois dans ce phénomène sacré quelque chose de fascinant et quelque chose d'angoissant. Parce que, c'est précisé au verset 3, cette vision est grande. Ce que Moïse voit est grand. Alors si on dit que c'est grand, nous on dirait c'est super. Voilà, c'est plutôt dans notre langage contemporain, mais c'est l'équivalent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inouï dans ce que voit Moïse et qu'il ne peut expliquer. Du côté de Dieu, eh bien Dieu se fait voir. Et puis ensuite, il refuse d'être regardé. Alors il arrête notre Moïse très téméraire qui voudrait voir de plus près. Et il lui dit « N'approche pas d'ici ». Et d'une certaine manière, on peut dire qu'à travers la personne de l'ange, il y a un phénomène de camouflage. Dieu voudrait se faire voir, mais ne le peut pas. Donc c'est l'ange qui prend la place de Dieu. La divinité ne peut être vue. Et ce camouflage est totalement réalisé lorsque la flamme de feu enveloppe le buisson et donc contient totalement le buisson. Dieu n'est pourtant pas la flamme, mais il est dans la flamme. On pourrait dire que Dieu est invisible dans ce qui est visible. Voilà, c'est exactement le même phénomène que ce que vous affrontez, je vais utiliser un terme un peu vif, ce que vous affrontez dans l'adoration eucharistique. Le Christ est là, invisible, dans ces espèces visibles que sont les apparences du pain et du vin. Donc, Dieu finalement ne se communique qu'à travers sa parole. S'il demeure invisible, ou s'il éblouit tellement il est lumineux, alors, au contraire, la parole est entendue et reconnue. Donc, voyez, dans cette scène du buisson ardent, sont affirmées à la fois la transcendance de Dieu, l'inconnaissable, l'insaisissable, l'invisible, et la proximité de Dieu, celui qui vient et qui s'approche au plus près de cet homme qui y va par petites touches. On reconnaît comment dans notre prière, eh bien nous aussi, nous approchons par petites touches. Quand on passe une heure, eh bien il y a des avancées, des reculs. Donc cette vision nous dit quelque chose de ce qui est indicible, de ce qu'il n'est pas possible de dire. Alors il y a un père de l'Église qui s'appelle Grégoire de Nice, un Cappadocien, c'est-à-dire la Cappadoce, c'est aujourd'hui en Turquie. Il a décrit de façon admirable la vie dans un livre qui s'appelle « La vie de Moïse ». C'est écrit en grec, mais c'est traduit, hein, rassurez-vous. Donc il a écrit des choses extraordinaires sur cet épisode du buisson ardent. Alors, au premier livre, paragraphe 20, voilà ce qu'il nous dit. Alors là, il parle de la lumière. Si c'est un buisson d'épines, si c'est depuis un buisson d'épines que s'allume la flamme par laquelle l'âme du prophète est-il illuminée, cela ne sera pas sans intérêt pour notre recherche. Si en effet la vérité est Dieu, et si cette vérité est aussi lumière, ce sont là des expressions sublimes que l'Évangile emploie pour désigner Dieu qui s'est manifesté pour nous dans la chair. Il s'ensuit que la conduite de la vertu nous amène à la connaissance de cette lumière qui s'est abaissée jusqu'à la nature humaine. Ce n'est pas de quelque luminaire situé parmi les astres qu'elle rayonne. Son éclat risquait alors d'être pris pour celui de la matière sous-jacente. Mais sortant d'un simple buisson de la terre, elle surpasse cependant par ses rayons les astres du ciel. Et voilà ce qu'il ajoute. Ce passage nous enseigne également le mystère de la Vierge Marie, la lumière de la divinité qui, à partir d'elle, a éclairé l'humanité, a laissé intact en naissant le buisson dont il émanait, et l'enfantement n'a pas flétri la fleur de la virginité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte là? Nous avons célébré il y a quelques jours l'Immaculée Conception, mais en gros c'est cela qu'il veut nous dire. C'est que, à travers ce buisson ardent, eh bien, ce buisson qui brûle sans brûler, ce buisson qui ne détruit, dont la flamme ne détruit pas les épines, les branches, etc., eh bien, on a quelque chose de Marie qui, eh bien, de Marie qui donc n'a pas perdu la fleur de sa virginité en portant dans son sein le Fils de Dieu. Voilà, il y aurait d'autres choses, mais on ne peut pas tout faire. Théodoret de Cyre, un père de l'Église du 5e siècle, nous dit la chose suivante. Alors, dans l'Exode, on nous parle d'un ange, afin que nous sachions que celui qui a été vu n'est pas Dieu le Père, car de qui le Père serait-il l'ange? Mais c'est le Fils unique, le messager du Grand Conseil. Donc Théodoret de Cyre dit que cet ange qui est présent dans le buisson, c'est le Fils de Dieu. Voilà, donc vous allez dire c'est des pirouettes spirituelles et théologiques, mais c'est d'une finesse incroyable sur le plan spirituel, parce que derrière le symbole, ou derrière la matière du buisson, de la flamme, etc., eh bien, il faut creuser plus loin, et il en est de même quand nous sommes dans l'adoration. Alors, qu'est-ce qui suit? Eh bien, il suit l'envoi en mission de Moïse. C'est-à-dire que cette révélation, Moïse est entré dans une connaissance plus profonde de Dieu, ce Dieu qu'il avait peut-être oublié d'ailleurs, puisque en Égypte, le peuple était persécuté depuis des centaines d'années, que lui, pendant 40 ans, il s'est enfui dans le désert pour fuir la fureur de Pharaon. Et voilà que Dieu revient comme un surgissement soudain dans sa vie. Donc, on voit bien que Dieu se révèle à lui, Dieu donne une connaissance de lui-même à Moïse, et cette connaissance de Dieu, elle n'est faite que pour une chose, c'est la suite du texte, les versets 7 et suivants, c'est-à-dire l'envoi en mission de Moïse. Donc, cet approfondissement de la connaissance de Dieu, cette rencontre avec Dieu, n'a qu'un but, eh bien, c'est la mission, rien d'autre. Et donc, voilà Moïse, qui va partir avec des pieds de plomb parce qu'il va dire « mais je suis bien incapable de rentrer en Égypte, aller à la rencontre de cet ignoble pharaon que j'ai fui ». Et donc, eh bien, malgré toutes les objections qu'il va exprimer, il va devoir partir. Partir avec un signe qui lui est donné. Un signe. Verset 12. « Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Vous avez déjà vu un signe comme ça, vous ? Généralement, quand vous donnez un signe concret, visible, présent, pour aujourd'hui. Voilà, je te montre mon livre, il est là, et donc c'est vrai, c'est écrit. Là, le signe, c'est un signe futur, un signe à venir. Donc, comment voulez-vous que Moïse puisse mettre sa confiance en ce Dieu, mettre sa confiance dans ce signe qui lui est donné, qui n'a rien de tangible, puisqu'il n'y a aucune preuve pour aujourd'hui, c'est une preuve pour demain. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il y a donc un délai entre le moment où Moïse est appelé et le moment où le signe concret va se réaliser. C'est-à-dire, tu es ici au pied du Sinaï, eh bien vous reviendrez. Vous reviendrez. Et quand vous reviendrez, quand vous serez là, alors il va y avoir des déboires avec Pharaon. Quand vous serez là, eh bien alors, ça sera le signe que, vraiment, c'est bien moi qui t'ai appelé. Et rien de plus. Donc, vous voyez, ce signe est complètement paradoxal. Parce qu'il est tourné vers le futur et il exige de la part de Moïse une foi à l'état pur. Eh bien ça, c'est ce que vous vivez dans l'adoration, une foi à l'état pur. Voilà, ce signe vous est donné, alors même au présent, là devant vous, ce signe eucharistique de la présence de Jésus. Et pourtant, nous n'avons aucune preuve scientifique. Nous avons des preuves théologiques un peu tirées par les cheveux. Mais si nous ne basculons pas dans l'acceptation, dans l'assentiment qu'il s'agit d'un véritable miracle, de savoir que ce qui est là, c'est bien Jésus présent dans l'hostie, eh bien, voilà, nous sommes franchement très très loin de Dieu. Donc, le signe qui est donné ici pour Moïse, c'est un signe futur, mais un signe de célébration. En célébrant, quand tu feras sortir le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Servir Dieu, ça ne veut pas dire être esclave de Dieu, ça veut dire le service, le servir dans l'office divin. C'est-à-dire le service, le servir dans l'offrande de sa vie et dans la liturgie. C'est un signe liturgique. Quand vous serez sorti d'Égypte, c'est-à-dire quand vous serez libre, alors vous serez capable d'être, de m'appartenir, d'être vraiment des véritables instruments dans ma main. Et donc on voit comment on est tourné vers la célébration liturgique. Cette hostie consacrée que vous avez devant vous, dans l'oratoire, elle provient d'une liturgie, elle provient d'une messe. Et donc, eh bien, quand vous êtes en adoration, vous êtes en attente de la messe suivante. Le signe qui vous est donné, c'est en fait de retourner à la messe. C'est aussi de servir Dieu dans l'office liturgique. Et puis enfin, le nom divin qui suit. Alors, là, Moïse est un peu insistant. Moïse dit à Dieu, versets 13, 14, 15... « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. » C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Alors, quand on lit le texte en hébreu, traduit en grec, oh là là, les choses se compliquent. En grec, on lit « je suis l'étang ». C'est pas très beau, c'est pas un étang où il y a des grenouilles. « Je suis l'étang », c'est-à-dire « je suis celui qui est ». L'étang, c'est le verbe être au participe présent. Alors, on sent qu'il y a toute une influence de la philosophie grecque dans cette traduction en grec. « Je suis l'étang », l'existence inconditionnelle de Dieu contre le néant des idoles, l'instabilité du monde. Lui, Dieu, est la stabilité de l'être de Dieu. En fait, le verbe utilisé dans la langue hébraïque, c'est un verbe dans une forme que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle l'inaccompli. Alors on n'a qu'à dire c'est une forme future, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, c'est une chose inaccomplie, on n'a qu'à dire c'est futur. Et donc, le plus près, ça serait peut-être de dire « je serai qui je serai », si on traduit pile poil les verbes par des futurs. « Je serai qui je serai ». En fait, dans l'esprit biblique, dans l'esprit sémitique de nos ancêtres les Hébreux, eh bien, l'auteur ne cherche pas comme les Grecs, comme la philosophie grecque, comme nous, les penseurs européens. Il ne cherche pas à donner une définition de l'être de Dieu par excellence. Alors, ce verbe être, c'est pas être dans son expression la plus pure telle que nous la connaissons. Ce verbe être, c'est peut-être plutôt être actif, au sens de être actif, au sens de être pour, être fait pour, ou bien être avec. Vous voyez, le verbe être ne peut pas subsister tout seul. Le verbe être a besoin d'un mouvement, il a besoin d'une préposition pour l'accompagner. On voit souvent, et ça chez les prophètes notamment, Dieu qui dit par exemple à Isaïe, « Je serai avec toi ». Mais il le dit même à Moïse, je crois, je ne sais plus. Oui, au verset 12. « Je serai avec toi. Ne crains pas, je serai avec toi. » Vous voyez, c'est la présence de Dieu auprès de son instrument. Donc, on voit bien que dans la pensée sémitique, il s'agit d'un Dieu qui se révèle dans l'histoire, c'est-à-dire un Dieu qui accompagne l'histoire de son peuple, et non pas un Dieu qui subsiste en dehors du monde. Il est bien, comme le dit l'Apocalypse, celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire, voilà, il est là, présent, en ce moment avec nous, mais il l'a déjà été dans le passé, avec nos pères, nos patriarches, et il le sera toujours, puisque Dieu est éternellement ce qu'il est. Donc, on n'a pas une définition du nom de Dieu, mais on a plutôt une approche de cette relation avec Dieu à travers cette formule « Je serai qui je serai ». En fait, Moïse dit « quel est ton nom ?» Voici. Quand je vais aller voir mes frères, je leur dirai, ils vont me demander quel est son nom, qui est celui qui t'envoie, quel est son nom. C'est la question du nom qui importe. Ça veut dire que le nom, c'est pas, voilà, nommé, je m'appelle Moïse, je m'appelle Yvan Maréchal, non, c'est plus que cela. Le nom, c'est viser la réalité de toute la personne. C'est pas simplement le nom en tant que tel, c'est la personne elle-même et tout son destin, tout ce qu'elle représente. Donc il importe de connaître le nom de Dieu pour atteindre Dieu, pour prier Dieu, pour appeler Dieu. Le nom, c'est donc le signe de cette réalité-là, ma relation avec Dieu. Et donc, quand je donne un nom à quelqu'un, je fais exister ce fameux quelqu'un. Donc, Moïse ne reçoit pas la révélation du nom en tant que tel, d'un Dieu qui est, mais seulement l'explication de ce nom. Et c'est un Dieu, finalement, qui se révèle comme étant le lieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est déjà ce que Dieu avait dit quelques versets auparavant dans le buisson ardent. Donc, il faut faire mémoire à jamais de ce nom. Invoquer Dieu, ça veut dire eh bien, demander à Dieu d'actualiser son intervention, de rendre tous ces prodiges qu'il a accomplis dans le passé pour son peuple, de le rendre aujourd'hui présent pour nous, se montrer secourable pour nous, comme il le fut dans le temps jadis. Et donc, c'est ce que fait la liturgie. la liturgie, elle prononce aussi le nom de Dieu. Le nom nouveau de Dieu que Jésus nous enseigne, et c'est ce que nous avons révisé depuis quelques jours dans la prière du Notre Père. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Et nous apprenons, notamment grâce à saint Paul, que c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à dire « Abba ». Abba en hébreu qui signifie papa, appeler Dieu comme étant notre Père. C'est le nom que Jésus a donné à Dieu, c'est comme cela qu'il l'appelait, papa. Donc c'est ce fameux nom au-dessus de tous les noms dont saint Paul nous parlait tout à l'heure dans l'hymne aux Philippiens. Et on voit bien que, eh bien, quand on donne à Dieu ce nom nouveau de Père, eh bien, Jésus nous unit à son Père. Nous entrons dans l'union de Jésus, le Fils, le Verbe incarné avec son Père. Alors, Jésus vit tellement, tellement cette participation au nom de Dieu, il vit tellement cette union au nom de Dieu qu'il peut revendiquer de participer à ce nom, notamment dans l'évangile de saint Jean, quand il dit « je suis la lumière ». Je suis le bon berger, je suis, qu'est-ce qu'il dit encore ? Je suis, comment ? Je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le pain de vie, etc. Voilà, donc, ego eimi en grec, moi je suis, reprenant le « je suis celui qui suis » ou « je suis » ou « je serai celui qui sera », c'est-à-dire « je suis, oui, je suis avec vous ». Vous devez en avoir la certitude. Et Jésus, qui est, quand il était sur la terre, qui est dans la vision béatifique, il est dans le lumen glorié, il est dans la lumière de gloire du Seigneur. Il y a en lui, il n'y a aucune ombre, aucun filtre entre lui et son Père. Eh bien, il nous permet de revendiquer ce même droit en devenant, à notre tour, des enfants du Père. Je vois que l'heure tourne. J'avais encore 100 000 choses à vous dire, mais je ne le ferai pas. Je voudrais juste vous envoyer maintenant vers le sommet dans le livre de l'Exode. Finalement, on s'arrêtera avec Moïse. Et donc, vous allez au chapitre 33 de l'Exode. Les chapitres 32, 33, 34, ce sont des chapitres qui concernent l'épisode du veau d'or. Voilà, Moïse est sur la montagne, et pendant ce temps-là, son peuple se vautre dans l'idolâtrie. Alors, au chapitre 32, ben, c'est le veau d'or, la fabrication du veau d'or, et ben, la colère de Dieu qui veut châtier le peuple d'Israël. Et puis ensuite, les chapitres 33 et début de 34, c'est le dialogue entre Dieu et Moïse. Et tout ça avant la fin du chapitre 34 qui sera la conclusion, où finalement c'est le renouvellement de l'alliance. Cette alliance qui avait déjà été instaurée au chapitre 24, et bien comme Moïse a brisé les tables, et bien il faut restaurer cette alliance, il faut la renouveler. Alors, et bien nous allons au cœur de tout cela, au chapitre 33. Et là, et bien dans ce dialogue entre Dieu et Moïse, tout le thème principal, c'est le thème de la présence de Dieu. Le thème de la présence de Dieu, ce Dieu qui se fait tout proche, qui vient et qui dialogue avec Moïse, puisqu'il ne veut plus dialoguer avec Israël pécheur. Seul Moïse est le juste avec lequel Dieu peut encore entrer en conversation. Et tout ça, eh bien, va, grâce à la médiation de Moïse, conduire au renouvellement de l'Alliance. Alors, je vous invite à regarder dans le chapitre 33, le verset 12. Dieu a dialogué plusieurs fois avec Moïse. Il y a eu la prière de Moïse. Moïse qui dit, dans son intercession, « Mais pardonne à ce peuple !» Et Dieu refuse complètement. Et voilà que Moïse revient à la charge. On est au chapitre 33, verset 12, page 151. Moïse dit au Seigneur, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu avais pourtant dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne me faire connaître tes voies pour que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. Seigneur, le Seigneur dit, j'irai moi-même et je te donnerai le repos. Et il dit, si tu ne viens pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. Comment saura-t-on alors que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas à ce que tu iras avec nous, en sorte que nous soyons distincts, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et le Seigneur dit à Moïse, cette chose que tu as dite, je la ferai encore, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Que se passe-t-il? Dieu ne veut plus entendre parler d'Israël. Et Moïse intervient. Voilà. Tu t'es révélé, tu m'avais dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux, donc voilà. Moi, finalement, tout va bien. Et j'aimerais bien inclure mon peuple dans cette histoire. Je ne suis pas tout seul quand même. Tu veux bien me faire grâce, mais ce pauvre peuple pécheur, ceux qui ont adoré le veau d'or, j'aimerais bien les entraîner avec moi. Et qu'est-ce que répond Dieu à cette première demande de Moïse? J'irai moi-même et je te donnerai le repos. Voilà, je vais venir et toi tu seras en repos. C'est pas du tout ce que Moïse a voulu. Alors il est obligé de revenir à la charge. Voyez-vous, la puissance de la prière de Moïse. Parfois on a du mal à croire que cette prière, eh bien, elle peut, j'allais dire convertir Dieu, mais c'est pas tout à fait ça. Elle peut, aidez-moi, plier le Seigneur, faire plier le Seigneur. Donc, Moïse revient à la charge à partir du verset 15. Si tu ne viens pas toi-même, alors c'est pas la peine de nous faire monter. Il faut donc que toi, Seigneur, tu viennes. Très bien. Le Seigneur va venir. Mais en plus de ça, n'est-ce pas à ce que tu iras avec nous, en sorte que nous soyons distincts, moi et ton peuple, de tous les peuples. C'est-à-dire, moi et mon peuple, moi et Israël, on est différents des autres, des païens. Mais ne dis pas qu'Israël est avec les païens. Donc, voyez, Moïse essaye de faire revenir Israël dans la grâce de Dieu. Voilà, moi j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais puisse le peuple d'Israël aussi trouver grâce à tes yeux. Et alors, Moïse a fait plier le Seigneur, cette chose que tu as dite, je la ferai encore, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc, si Dieu accepte de reprendre Israël, c'est parce qu'il y a eu la puissance de la prière de Moïse. Et alors, au verset 18, on atteint le sommet, et il lui dit, c'est-à-dire Moïse lui dit, « Fais-moi la grâce de voir ta gloire. » Voilà, je veux voir ta gloire. Je veux te voir face à face. Et donc, il faut aussi que notre prière nous conduise jusque-là, à ce désir de voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et donc Dieu va mettre sa main sur la face de Moïse quand il va passer dans le creux du rocher, pour empêcher évidemment de Moïse d'être à nouveau aveuglé, comme c'était le cas dans le buisson ardent. Mais cette fois-ci, l'aveuglement sera encore plus violent, plus puissant. Et donc, on ne peut pas voir Dieu comme ça, ici-bas, face à face. Alors tout ça mène à quoi ? Chapitre 34, verset 9. Si vraiment, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, que mon Seigneur veuille bien aller au milieu de nous, bien que ce soit un peuple à la nuque raide, pardonne nos fautes, voyez, il s'implique dans la faute de son peuple, comme le Christ, pardonne nos fautes et nos péchés et fais de nous ton héritage. Et dans la suite, Dieu va évidemment accepter. Donc, voilà, toujours ne jamais désespérer. Parce que l'insistance, la persévérance de la prière, peut conduire, évidemment, Dieu à changer le cours de l'histoire. Mais, évidemment, très souvent, il nous faut vivre ça, dans la foi. C'est-à-dire dans la foi pure, la foi absolue. Seigneur, je ne vois rien. Seigneur, je ne comprends rien. Je ne sais pas comment tu mènes les événements, mais je sais que tu les mènes. Je sais que tu as entendu ma prière, mais voilà, ma prière n'a pas forcément été fructueuse, ou bien, a posteriori, je ne vois pas bien où tu me guides, mais je sais que tu me guides, comme tu as guidé Moïse. Alors voilà, ce qui nous est demandé, eh bien, c'est cette foi de Moïse, c'est de nous attacher à Dieu et de laisser Dieu faire, voilà, quoi que soit la réponse que nous comprenions, parce que de toute façon, la réponse véritable, elle est pleinement en Dieu, et là, nous la comprendrons autrement, plus tard. Je voulais aborder la figure d'Élie, ça sera pour une autre fois, parce que Élie, c'est le pendant prophétique de Moïse. Donc, j'ai pris comme modèle pour aujourd'hui Moïse. Et Moïse est ce chemin qui le conduit vers la rencontre glorieuse avec Dieu, comme vous le faites chaque semaine dans l'adoration. Eh bien, une autre fois peut-être, on pourra aborder cet autre personnage tout aussi fulgurant qui est Élie, cet homme de feu zélé pour Dieu, et qui lui aussi rencontrera Dieu, mais d'une toute autre manière, sur la même montagne. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. S'il y a une ou deux questions, je peux éventuellement y répondre.
La prochaine fois, alors.
Ah, je ne sais pas. Là, vous me posez une question difficile, alors vous tournez vers les grands responsables du groupe.